le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes donc sur Radio FM+, je suis en compagnie de Nathan aujourd'hui. Bonjour Nathan.
Bonjour.
C'est Amnesty International et aujourd'hui on va vous parler de la situation en Afghanistan. Vous en avez tous et toutes entendu parler cet été, la situation est assez problématique. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les faits qui se sont produits cet été, Nathan ?
Tout à fait. Alors en août de cet été, les talibans ont repris petit à petit le pouvoir en Afghanistan suite au départ des troupes notamment américaines, de l'Alliance internationale. Et ils ont petit à petit imposé leur régime, qui est un régime qui tente de nier toute forme ou la plupart des formes de liberté pour la majorité de la population. Voilà.
Tu peux nous dire à peu près comment ça s'est passé, ce coup d'État ? On peut parler de coup d'État, je pense.
On peut parler de coup d'État. Alors, tout simplement, même c'est un peu bizarre de dire comme ça, la coalition internationale s'est retirée. Cet été, suite à 20 ans de présence dans le pays, pour tenter de faire en sorte que la démocratie puisse fonctionner par elle-même, en pensant que ça allait marcher. Et les talibans, qui n'avaient jamais arrêté le combat depuis 20 ans et leur défaite en 2001, ont repris très rapidement l'entièreté du pays, voilà, ce qu'ils n'avaient jamais réussi à faire jusque-là.
Effectivement, on a vu d'ailleurs pas mal d'images assez choquantes de journalistes menacés par des talibans armés. Est-ce que, du coup, on doit s'inquiéter pour les civils ? Quelle est la situation des civils en ce moment ?
Alors oui, on peut s'inquiéter pour les civils. En ce moment, la situation, elle est préoccupante parce qu'on a vu beaucoup de civils tenter de fuir. Certains ont réussi, nombreux, mais beaucoup. La majorité n'ont pas réussi à fuir. Je pense tout d'abord aux journalistes, aux membres des ONG, aux interprètes internationaux, aux femmes. En fait, tous ces gens qui sont en dehors de l'idéologie des talibans, qui a une idéologie, on peut dire, qui a des siècles, qui date d'il y a des siècles, et avec un islam extrêmement radical et qui a une interprétation très particulière.
Mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement les talibans ? Comment est-ce que ça s'est formé, cette organisation ?
Alors, les talibans sont formés dans les années 90. En fait, l'Afghanistan, ça a été tout d'abord un royaume qui a subi le jeu des puissances entre la Russie et l'Angleterre, jusqu'à devenir une colonie anglaise, carrément. Et ils ont réussi à s'en libérer dans les années 20, et ils ont créé une monarchie qui a été plutôt libérale, même si effectivement c'était reste une monarchie, donc avec privation de liberté et ainsi de suite. Mais il y avait un mode de vie plus occidental, plus de liberté pour les
avec
différents...
Avec toujours l'influence de l'Angleterre.
Tout à fait, l'influence de l'Angleterre, exactement. Et petit à petit, en fait, ça s'est dégradé suite à des divers coups d'État, jusqu'à la création des années 70 de la République, bon, par un membre de la royauté. Et là, il y a eu une influence de l'URSS communiste. Et donc, du coup, des coups d'État communistes qui ont marché petit à petit.
Il y en a eu plusieurs qui se sont succédés.
Il y en a eu plusieurs et même des coups d'État entre communistes.
D'accord.
Et donc, en fait, ça a créé beaucoup d'instabilité dans le pays tout au long des années 70, puis des années 80, parce que l'URSS est rentré pendant 10 ans en guerre avec l'Afghanistan. Une guerre extrêmement meurtrière. Et l'Afghanistan était soutenu financièrement par les États-Unis, qui à l'époque étaient contre le communisme.
Donc c'était un lieu en fait de conflit de la guerre froide.
Exactement, tout à fait. Et en fait, les Américains ont armé, d'ailleurs il y a un très bon film avec Tom Hanks que vous pouvez voir là-dessus, ont armé les talibans, et ce qui allait devenir les talibans en fait, dans tout le pays en fait. Et même pas que les talibans, ils ont amené tous ceux qui luttaient contre l'URSS, ils les ont armés. Et au début des années 90, la guerre étant finie, le pays était déchiré entre différents seigneurs de guerre. Et parmi eux, il y avait des membres des talibans qui ont commencé à émerger en 1994 au Pakistan, état voisin à l'est, et qui ont rapidement pris le pas sur les autres chefs de guerre parce qu'ils avaient une volonté unificatrice et une volonté religieuse qui permet en fait de souder les gens entre eux. Ils ont pris d'abord la moitié du pays, et jusqu'en 1996, où là, ils ont pris les 8 dixièmes du pays, sauf l'extrême nord-est, qui est la vallée du Panjshir, voilà, qui était sous les ordres du commandant Massoud. Cet état de fait a duré jusqu'en 2001. Le 9 septembre, le commandant Massoud est assassiné. Et deux jours plus tard, il y a l'attentat du World Trade Center. Et là, on se rend compte que Al-Qaïda est hébergé en grande partie par les talibans en Afghanistan. Enfin, on se rend compte, le monde se rend compte, mais parce que des gens étaient au courant déjà avant. Et on se retrouve avec les Américains qui demandent aux talibans de leur remettre tout membre d'Al-Qaïda pour qu'ils soient jugés chez eux. Ce que les talibans refusent en disant qu'ils pourront être jugés sur les lois de la charia d'Afghanistan. À partir de ce moment-là, les Américains et leurs alliés, notamment la France et une bonne partie des pays de l'OTAN, engagent une contre-attaque armée dans le but de faire tomber le régime des talibans qui très rapidement tombe. Voilà. Et petit à petit, après, on a une démocratie, entre guillemets, hein, qui se met en place, une république qui se met en place pendant les 20 ans en Afghanistan, soutenue par la coalition internationale, mais les talibans continueront le combat jusqu'à aujourd'hui. D'où le fait que dès que les Américains et la coalition internationale sont partis, ils soient revenus tout de suite.
Mais ils ne sont pas partis d'un coup, ils sont partis quand même petit à petit ces dernières années.
Ils sont partis petit à petit ces dernières années, mais en fait, il y a un événement majeur, c'est-à-dire qu'en fait, les talibans n'ont pas d'aviation. Et donc, en fait, la coalition internationale maîtrisait le ciel. Ce qui fait que même s'ils étaient dans les montagnes qui étaient difficiles d'atteindre, dès qu'ils voulaient redescendre dans les plaines et prendre les villes, ils ne pouvaient pas. Ils étaient bombardés par l'aviation. Et l'aviation, elle est bien partie d'un coup.
D'accord. Et du coup, c'est quoi les revendications des talibans? C'est quoi leur idéologie, en fait?
Leur idéologie, aujourd'hui, est plus compliquée à percevoir qu'avant. Avant, il y avait une idéologie que je pourrais qualifier de moyenâgeuse, parce que c'est l'utilisation de la charia comme règle, avec une charia qui est basée sur les hadiths, des hadiths qui sont très radicales, qui sont très durs et qui sont
pas... Les hadiths, donc les paroles du prophète.
Hein, exactement, qui ne sont pas forcément d'ailleurs celles du prophète, vu qu'elles se basent sur certains hadiths qui ne sont pas forcément validés ou qui ne sont pas forcément canons, entre guillemets, et dont leur interprétation laisse à désirer, en tout cas de la part de certains musulmans, qui ne les interprètent pas du tout de la même manière, à l'exemple des soufis, par exemple. Et du coup, on peut citer ce qu'ils avaient fait en fait en 2001, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de recul pour savoir exactement quelle va être leur politique, même si on a une bonne idée. Mais on peut citer qu'il y avait une politique extrêmement agressive envers tout ce qui était l'art et la culture. Donc, à des points où c'était le théâtre, le cinéma, la télévision, ordinateur, appareil photo, magnétoscope, tout ça, c'est interdit. Les femmes n'ont pas le droit de parler aux étrangers. Les femmes n'ont pas le droit de parler à des hommes qui ne sont pas leur mari, n'ont pas le droit de sortir sans leur mari, leur frère ou leur père. C'est la lapidation, les coups de fouet pour l'adultère. Ça va même jusqu'à la destruction des photos. Ça va jusqu'à l'interdiction de la plupart des sports, l'interdiction de la radio. Ne pas écouter de musique, jamais. Une forte discrimination envers les femmes, puisque tout système, qu'il soit médical ou étatique, sont dédoublés. Et elles sont à l'avantage des hommes.
Et est-ce qu'on a une idée un petit peu plus précise de aujourd'hui ce qui pourrait être idéologiquement les revendications qui vont être la politique qui va être mise en place dans le pays?
Alors oui, on pense quand même qu'il y a une en tout cas. Ce qu'ils ont laissé présager, c'est que cette fois-ci, ils ne vont pas tenter, en plus, je voulais le rajouter, parce que c'est important, la destruction des statues des Bouddhas de Bamiya et de la plupart des pièces historiques et des livres de l'histoire afghane, ce qui du coup permet d'ancrer encore plus leur légitimité, vu qu'il n'y a plus d'histoire avant, donc ils peuvent dire ce qui s'est... Ils peuvent créer leur propre histoire et dire...
Ils peuvent raconter leur histoire.
Voilà. Et en fait, du coup, on pense à peu près que là, cette fois-ci, ils ne vont pas recréer la même chose, ou du moins pas aussi dur. Parce que ça a été un échec, parce qu'ils se sont coupés de beaucoup de technologies, de beaucoup d'informations, et ça a été en grande partie pour ça que les Américains, en quelques jours, et la coalition internationale, ont pu reprendre l'entièreté quasiment de l'Afghanistan, sauf quelques vallées montagneuses dans lesquelles ils se sont réfugiés. Donc là, pour l'instant, ils tentent quand même d'asseoir leur pouvoir, donc Ils menacent les membres d'ONG, les journalistes qui sont restés sur place, ils répriment les manifestations de femmes, parce que je ne sais pas si c'est des manifestations féministes, parce que ce sont juste des femmes qui demandent à pouvoir genre vivre. C'est très clairement...
Ça reste féministe. Voilà.
Mais c'est pour l'instant, on sait aussi qu'ils essayent de s'ancrer à l'international. Ils essayent d'avoir une stature, de se dégager en tant que chef d'État ou en groupement de chefs d'État.
Il y a une communication qui essaye d'être établie par les talibans vers d'autres pays. Est-ce que tu
Tout
sais
à fait. Alors, nous avons le Tadjikistan et l'Ouzbékistan qui ont reconnu l'État taliban. Le Pakistan, qui reconnaît l'État taliban, mais qui l'a aussi beaucoup financé et soutenu en sous-main. Et on a la Chine, qui l'a fait pour, on va dire, en tant que soft power contre les Américains, pour montrer que maintenant, ils ont la main dans la région. Vu qu'ils sont, il ne faut pas l'oublier, voisins. Il y a une frontière avec la Chine.
D'accord. Et aujourd'hui, du coup, quelles vont être les mesures qui vont être prises à l'international pour essayer de faire en sorte de, peut-être pas de stopper, parce que ça risque d'être difficile, mais de ralentir le mouvement ou d'aider la population sur place?
Alors déjà, il y a des mesures qui ont été prises. L'évacuation normalement de nombreux civils, de ceux qui étaient considérés comme le plus en danger avec leur famille.
Donc on va parler là des journalistes, des militants, militantes, défenseurs des droits humains.
Exactement, des interprètes aussi nombreux.
Interprètes ?
Tout à fait, des interprètes, parce qu'en fait, les talibans considèrent que les interprètes sont ce qui ont permis à la coalition internationale d'arriver. Aussi, ont collaboré avec eux. Donc pour eux, c'est des traîtres.
Évidemment.
Donc voilà. À noter que aussi, certains interprètes n'ont pas été rapatriés, et que ce soit par les États-Unis ou par la France. Ce qui pose quand même un petit problème moral. Sinon, pour les mesures qui vont être prises, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'actions qui ont été tentées. Il y aura probablement des sanctions économiques. Après, l'Afghanistan, ça reste quand même un pays de montagne, enclavé, qui a une économie qui est fortement basée sur l'opium aussi.
Sur l'opium, c'est-à-dire, tu peux nous en dire un peu plus ?
Bah, c'est-à-dire que l'opium, en fait, il y en a qui est cultivé là-bas, notamment, et c'est aussi une zone de transit, parce que c'est quand même une zone où relativement non-droit, donc du coup, qui est compliquée à surveiller avec de nombreuses montagnes. Il faut imaginer un pays où une partie du pays est à plus de 3000 mètres, on n'est pas loin de l'Himalaya. Donc du coup, surveiller des frontières pour un pays plus grand que la France, avec des montagnes à plus de 3000 mètres qui font la moitié du pays, c'est compliqué. Ils n'ont pas d'accès à la mer non plus, donc c'est pour avoir du commerce aussi, ça va être compliqué. Donc du coup, ils utilisent ce qu'ils peuvent. Après, ce qu'on sait, c'est que les talibans ne sont pas fans de drogue, même s'ils l'utilisent aussi un petit peu. Donc pour l'instant...
Donc le commerce de l'opium, ça peut... Enfin,
c'est ça une source être restreint, de revenus. Du coup. Ça va être restreint, mais ça sera maintenu quand même comme source de revenus. Ils l'avaient déjà fait entre 1996 et 2001.
D'accord. Mais du coup, il y a possibilité d'isoler cette zone géographique, économiquement parlant ?
Ça risque d'être compliqué, même si ça peut être fait.
Ça pourrait être une réponse internationale.
Ça peut être fait. On a un exemple qui est l'Iran, qui a beaucoup souffert économiquement des différents embargos et sanctions internationales. Après, il y a toujours le fait que la Chine peut soutenir l'Afghanistan, et peut soutenir aussi en plus par le Pakistan. Voilà.
À ton avis, quelle solution pourrait être prise à l'international pour protéger les civils ? Parce que c'est vraiment ça en ce moment qui est la priorité et qui est vraiment l'urgence.
Bah alors, c'est compliqué en fait, parce que pour protéger les civils, soit rentrer en guerre et refaire une coalition internationale, mais les civils vont encore souffrir, de parler de nouveaux combats à nouveau. Et les civils d'ailleurs ont toujours souffert, que ce soit par les talibans ou par la coalition internationale. Pendant les guerres avant, et ou sinon tenter de mettre la pression économique, culturelle sur les talibans et de faire en sorte de les transformer en quelque chose de qui reste comme par exemple le Pakistan, donc un État qui peut être extrêmement virulent, qui peut être extrêmement dur et peu égalitaire, mais qui respecte quand même une certaine forme de démocratie, qui a des lois, même si on peut ne pas être d'accord avec, qui peuvent protéger ses habitants.
Donc ce serait plus intéressant d'avoir une réponse plus basée sur la communication avec les talibans.
Ça, on ne peut pas le savoir.
En tout cas, Amnesty International appelle les talibans à protéger les civils, à laisser partir ceux et celles qui veulent partir. Et Amnesty International appelle évidemment la France et tous les autres pays qui sont en capacité de le faire, d'accueillir tous les réfugiés politiques afghans. On parlait tout à l'heure de la réponse de la Chine. On peut se poser des questions par rapport au traitement que la Chine donne aux Ouïghours, puisque les Ouïghours sont une fraction musulmane.
Une minorité musulmane
qui est extrêmement discriminée en Chine. Si vous ne le savez pas, il y a des camps de rééducation ouïghours en Chine. Ces camps de rééducation sont généralement assez violents. On appelle ça camps de rééducation, mais finalement, c'est plus des camps de travaux forcés et d'emprisonnement. Donc ça pourrait potentiellement poser problème.
Alors oui, en fait, c'est l'un des enjeux, entre guillemets, pour les talibans et pour la Chine, comment ils vont arriver à s'entendre, parce que en fait, les talibans sont quand même en mal de notoriété, surtout vis-à-vis du monde turco-musulman. Donc ceux dont ils partagent, c'est pas les mêmes ethnies, mais c'est le même groupe ethnique turc et la même religion, parce qu'ils sont aujourd'hui aussi concurrencés par l'État islamique, par Al-Qaïda, même si c'est leurs alliés. Comment faire pour ne pas être phagocytés par ces groupes-là? Comment exister face à ces groupes-là? C'est les questions que les talibans vont se poser. Donc, leur rayonnement dans le monde musulman, qui est une question qui de leur côté se pose. Mais d'un autre côté, ils ont besoin d'alliés puissants pour les protéger. Et ni les Russes, ni l'Europe, ni les non, beaucoup de non-alignés, ni les Américains ne les protégeront. Donc, la Chine, pour l'instant, est leur meilleure option. Donc, à voir ce qui va se passer et comment ils vont arriver à s'entendre. Pour l'instant, je pense qu'ils prennent un petit peu ce qu'ils peuvent.
Oui, parce qu'effectivement, s'il n'y a que la Chine qui peut les aider, malgré tout, les Ouïghours, de toute façon, ne sont pas de la même minorité musulmane, ne sont pas de la même croyance musulmane que les talibans. Il y a des différences, donc c'est peut-être pas si grave selon cette idéologie de laisser en place des camps et puis d'être du coup allié de la Chine malgré les difficultés qu'elle donne aux Ouïghours.
Effectivement. Après, les talibans, on l'a vu entre 1996 et 2001, ont une idée très à eux et très rigoriste de l'application de la charia et de ce qu'est la modernité et de ce qu'est la vie d'un État et de leur position politique, qui sont parfois peuvent être déroutantes pour des gens qui sont observateurs internationaux, pour des gens qui sont des politiques ou des diplomates qui sont dans une sorte de groupement où les gens peuvent s'entendre, peuvent discuter, même s'ils peuvent être proches de la guerre et ainsi de suite. Ils vont avoir des décisions qui vont, entre guillemets, être politiquement rationnelles.
Parce que les talibans, parce qu'il y a des stratégies qui sont mises en place, c'est plus stratégique. Ouais.
Exactement, ce que les talibans, des fois, ne font pas. Après, manifestement, ils ont l'air d'avoir appris de leurs erreurs. Ils ont mis en place un gouvernement. Ils ont mis en place une constitution qui date de la monarchie. Donc, au début des années 70, avant les années 70, même s'ils l'ont remaniée, hein, un peu à leur image. Et de plus, ils sont quand même, ils doivent encore quand même asseoir leur légitimité à la fois dans leur pays aussi. Parce qu'il y a plusieurs ethnies, les Ouzbeks, les Tadjiks, les Hazaras et les Pachtounes dont viennent majoritairement les talibans du sud. Mais il y a quand même beaucoup de chefs de tribus qui ne sont pas d'accord avec eux, qui ont coopéré longuement avec les Américains et la coalition internationale et donc du coup qui ont peur. Et donc je pense qu'il y aura... que tout d'abord ils vont essayer de réussir à faire en sorte de se faire un petit peu oublier de la coalition internationale. Et ils vont essayer de se concentrer sur comment faire tourner leur pays, notamment qu'ils n'ont plus d'argent.
Et oui, parce que justement, il n'y a plus personne pour les aider. Et j'étais en train de me demander, effectivement, les talibans ont quand même une puissance armée. D'où est-ce qu'elle vient? D'où viennent toutes ces armes?
Alors, ces armes viennent du trafic de l'opium.
D'accord,
voilà, bon, premièrement. Déjà. Deuxièmement, de l'aide pakistanaise. Et troisièmement, en fait, il y a un système taliban qui est qu'il prélève 2,5% sur les revenus. C'est une sorte de sécurité sociale à la Taliban, même si elle peut être détournée pour faire d'autres choses. Et 10% de ce qui est des récoltes qu'ils peuvent vendre et donc du coup utiliser cet argent pour acheter des armes à beaucoup de trafiquants à travers le monde comme ça peut se faire dans d'autres pays. Voilà. D'accord. Et ce qui est comme de par leurs frontières géographiques est compliqué à contrôler, notamment par le Pakistan.
Eh ben, on espère que la France, qui est assez floue sur ses transferts d'armes, ne va pas en donner aux talibans, en vente en tout cas.
C'est peu probable.
C'est peu probable, mais bon, elle continue à le faire dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'endroits, et c'est très inquiétant aussi. D'ailleurs, sur ce sujet, vous pouvez vous rendre sur le site d'Amnesty International pour signer une pétition qui demande à Emmanuel Macron plus de transparence de la part du gouvernement sur le commerce des armes. Ce sera toujours un bon moyen de vérifier s'il n'y a pas justement ce trafic en Afghanistan. Et en ce qui concerne l'Afghanistan, si vous voulez en connaître un peu plus sur le sujet, on a publié une enquête avec Amnesty International. Beaucoup d'éléments de cette enquête vous ont été décrits aujourd'hui par Nathan. Mais si vous voulez en savoir davantage, sur notre site donc amnestyinternational.fr, vous pouvez la lire dans son intégralité. Sur ce, nous, on va vous souhaiter une très bonne journée.
Bonne journée.
Et à la semaine prochaine.